Bonsoir. Merci d'être venu à travers ce labyrinthe jusqu'à la salle L17, qui est une belle salle, mais qui se mérite. S17. Les nouvelles salles. Notre invité ce soir est Michel Armat, qui est un habitué de ce séminaire. Michel est chercheur au centre Cueilleret, rattaché à Paris 9 Dauphine. A écrit en 1995 une magnifique thèse sur l'histoire du modèle linéaire. Depuis, a beaucoup écrit, notamment avec Ami Dahon et Alain Desrosières, qui sont là pour le soutenir, et vient de publier un recueil de tous ses travaux dans cet ouvrage qui fait suite aux deux volumes que Alain Desrosières avait déjà publiés dans la même collection. La science économique comme ingénierie, quantification et modélisation aux presses des mines. Voilà. Donc, vous avez ou vous pouvez encore évidemment demander le texte d'introduction de ce livre. Vous avez on peut vous envoyer par mail l'introduction du livre, et puis peut-être la table des matières si tu me l'avais passé. Mais sinon, l'idée est évidemment de l'acheter, de le faire de la pub. Voilà. Donc Michel, tu connais la règle, une heure d'exposé et une heure de discussion après.
Ok, merci. Merci, donc je remercie d'abord d'avoir invité ici les organisateurs de séminaires, effectivement, que je fréquente et que j'apprécie. Alors, je vais compléter la présentation d'Annie pour rappeler pour les gens qui ne me connaissent pas que, effectivement, le point de départ, sans doute, de mes travaux, c'est la thèse que j'ai fait à un âge avancé. Donc, ma première remarque, c'est que je confirme que vous avez le temps de faire votre thèse. Ne vous prenez pas, j'ai fait un âge avancé. J'en ai été ravi. Deuxièmement, je voudrais dire que cette thèse portait sur une chose un petit peu différente de ça, mais qu'on va retrouver des morceaux. Cette thèse était donc l'histoire du modèle linéaire et préhistoire de l'économétrie, c'est-à-dire son objet consistait à suivre les outils de statistiques mathématiques qui ont été d'abord intégrés à l'astronomie, en fait, la théorie des erreurs, ensuite intégrés à ce qu'on appelle la biométrie, avec la régression et la corrélation chez Galton et Peterson en Angleterre, puis enfin à l'économie. Donc je regarde comment ces outils, qui sont la corrélation et la régression, pour faire vite, et ce qu'on appelle quelquefois le modèle linéaire pour faire ramasser, eh bien comment ces outils donc circulent entre les différentes disciplines et pour faire leur effet principal, puisque aujourd'hui, si on parle de modèle linéaire, c'est surtout quand même en statistique mathématique ou en économétrie. Alors ici, depuis 1995, c'est la date effectivement de la sortie de la thèse, j'ai retravaillé, mais avec une optique légèrement différente. C'est plus les outils statistiques que tels qui m'intéressent, c'est vraiment l'économie. C'est-à-dire ce livre est un livre d'économie, bon, c'est-à-dire tous les papiers qui sont là-dedans. Alors c'est des papiers, effectivement. La première chose à dire, ce bouquin est un recueil d'articles. Donc, pour ceux qui connaissent par cœur tous les articles, ils ne vont rien découvrir, mais ce n'est pas le cas, je l'espère. Et donc il y a une douzaine d'articles, dont l'introduction, donc il y en a en fait 11 articles plus une introduction. Et ces 11 articles, donc, ont été réédités dans ce bouquin, mais ils sont récents, c'est ceux des 10 dernières années. Bon, donc d'après la thèse. Alors ce recueil d'articles porte, en fait, est toujours un recueil d'articles historiques, donc je vais vous parler d'histoire, évidemment, d'histoire de l'économie, d'histoire de l'État, d'histoire de l'économétrie, etc. Et plus largement, d'histoire de la quantification et de la modélisation, qui sont les deux sous-titres, le sous-titre, c'est quantification et modélisation. Quant au titre, eh bien, je vais l'expliciter dans l'introduction, c'est la science économique comme ingénierie, et donc je vais essayer bien sûr de développer ce thème. Donc l'exposé va comporter deux parties. La première partie, je vais un peu présenter l'introduction du bouquin, qui est un peu le cadrage théorique. Alors, soyons raisonnables, on ne va pas dire que tout ce qui suit dans le bouquin respecte parfaitement ce cadrage théorique, puisque vous avez compris que les articles ont été écrits avant. Donc il y a toujours un peu un artifice à dire que tous les articles sont parfaitement des illustrations de ce cadrage théorique, mais enfin, ils le sont quand même pas mal. Et on va passer une demi-heure là-dessus, puis je pense passer une demi-heure, donc il faut que je vraiment fasse un top au bout d'une demi-heure. Ensuite, on va passer une demi-heure à quelques illustrations en prenant dans les chapitres des images. Et j'ai donc mis en route l'ordinateur uniquement pour ces images. Bien, alors, par quoi commencer? Eh bien, on va commencer par sur l'ouvrage, comme je l'ai fait dans l'introduction, parce que je trouve que c'est une bonne début, c'est la critique autiste des étudiants en 2000. j'ai commencé mon introduction par ce point-là, c'est-à-dire un mouvement d'étudiants auquel je me suis joint, comme quelques enseignants, mais c'était un mouvement d'étudiants essentiellement, qui dans les années 2000 a fait la critique suivante, l'enseignement de l'économie est autiste. Autiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enseignement est totalement déconnecté des réalités économiques, et leur mouvement s'est élargi, a suscité un rapport au ministre, puis est devenu international sous le grand nom de Post-Autistic Economics, et il dénonçait un divorce inquiétant entre la science apprise et les questions économiques traitées par l'actualité. En tant qu'enseignant, ça m'a touché quand même, c'est normal. Mais je pense que ça a un peu plus de largeur que ça, et je pense tout simplement qu'il faut prendre vraiment au pied de la lettre ce qu'ils ont dit. Alors, ils ont dit quoi? Donc, divorce inquiétant entre la science apprise et les questions économiques traitées, omniprésence du seul courant de pensée néoclassique et libéral comme fond doctrinaire, et enfin, enfermement dans des routines d'analyse formalisées ou modélisées, enchaînées à l'infini. C'est moi qui l'écris comme ça pour faire vite, hein. Mais c'est ces trois thèmes et trois thèmes centraux du mouvement. Donc, je ne vais pas développer la suite de ce mouvement, ça s'est terminé plus ou moins par le fameux rapport dont je parlais tout à l'heure, il y a des gens qui continuent à travailler là-dedans. Alors l'idée, c'est de prendre au sérieux donc, cette question. Y a-t-il un rapport entre ce qu'on enseigne, donc la théorie qu'on enseigne, et là, je fais tout de suite une différence, ce qu'on enseigne n'est pas la théorie. Moi, je pars toujours de l'idée que ce qu'on enseigne est une transformation didactique de la théorie. Il ne faut pas se tromper. Donc en fait, les critiques que je formule sont des critiques qui peuvent porter soit sur la théorie économique elle-même, soit sur sa transformation didactique, il faut être clair. Alors, moi je ne vais pas considérer cette critique radicale comme d'un point de vue radical, je ne vais pas dire qu'elle invalide totalement tout ce que les économistes ont fait de tout temps, évidemment, hein. Je vais être loin de dire ça. Je vais simplement dire que je voudrais prendre au sérieux la question. Et donc, que je vais m'intéresser au rapport entre la science économique et ce qu'elle est censée, son objet, c'est-à-dire l'activité économique. Alors, pour faire cela, j'ai donc proposé, hein, je vais en diagonale dans mon introduction, ne vous inquiétez pas, donc j'ai proposé le concept de science économique comme ingénierie. Bon, attention, ce n'est pas un gros concept, ça traîne un peu partout, on le voit ailleurs, mais enfin, je pense qu'il y a quelque chose qui résumait bien ce que je voulais faire dans cette expression, et donc je vais la défendre. Quand on regarde l'économie savante, c'est d'abord défini sous le nom d'économie politique, l'économie savante, c'est-à-dire celle académique, si vous préférez, celle donc qui correspond à la recherche des économistes et à l'enseignement qu'ils font. Et elle s'est d'abord définie comme économie politique, puis c'est-à-dire comme science morale issue de la philosophie politique, avant de prendre dans les années 30 d'autres noms, par exemple économique rationnelle, ça a été un moment très important dans les années 30, le nom de la discipline que nous connaissons tous, sur le modèle de la mécanique rationnelle, à la suite de Barras qu'il avait proposé. Pour mieux assumer la nature formelle et hypothético-déductive de cette discipline. Puis ensuite, on a eu une autre formule aussi, la formule économétrie, qui a fait partie de toutes les métries qui sont nées au début du XXe siècle, c'est-à-dire l'idée que c'est la mesure qui l'emporte sur le reste, mais on en parlera d'économétrie plus tard, c'est un peu plus compliqué. Et la terminologie science économique n'apparaît que dans les années 60, hein, on est bien d'accord. Donc les sciences économiques apparaissent dans les années 60 et en particulier dans l'enseignement, dans la recherche, etc. Alors, au-delà de l'évolution terminologique, il me semble que l'activité des économistes, ingénieurs ou pas, hein, alors je veux bien insister là-dessus, c'est que si je parle d'ingénierie économique, je ne me limite pas aux ingénieurs économistes à la française. Bien sûr qu'ils ont joué un rôle considérable dans cette histoire, mais plein d'autres économistes, pour moi, font de l'ingénierie économique. Alors l'activité des économistes, ingénieurs ou pas, a pris la forme d'une ingénierie, c'est ce que je défends. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien que la mutation de l'économie politique à la science économique s'est établie, donc mutation de 1880 en gros à 1950, ce que je vais traiter aujourd'hui, c'est ça la période sur laquelle je vais me centrer, eh bien elle s'est établie non seulement sur la base d'une unification de son corps de doctrine, qui est toujours problématique, hein, mais quand même une certaine unification de son corps de doctrine, en un paradigme dominant, néoclassique, mais elle a profité aussi d'une révolution dans la méthodologie du raisonnement, et une science, elle tient énormément par son raisonnement, et d'imposition de la preuve, c'est-à-dire que les méthodes d'imposition de la preuve aujourd'hui et il y a 80 ans, ça ne sont pas du tout les mêmes, en particulier en passant par les canons de la déduction de mathématiques et de la validation statistique. Troisième point qui caractérise l'ingénierie, c'est celle d'une intégration des inventions théoriques dans des innovations socio-économiques, lui permettant de traduire des principes ou des résultats dans des dispositifs de gestion des activités économiques ou des dispositifs de régulation de l'activité économique. Quatrièmement, enfin, un positionnement particulier de l'expertise économique dans des think tanks et des agences étatiques, c'est ce qui s'est passé quand même à partir des années 30 et 40, et se positionne dans l'expertise, donc le mot expertise va jouer un rôle important, eh bien ce sont ces quatre volets qui constituent à peu près pour moi ce que j'appellerais une ingénierie. Alors je dis que ce n'est pas nouveau, mon collègue Etner qui était par là dans son bouquin de 1987 sur les ingénieurs économistes, ce n'était pas la même thèse, mais enfin il parle évidemment d'ingénierie économique et il montre comment les économistes sont attachés non seulement à développer la théorie, ce que je ne rejette pas bien sûr, mais à développer des outils pour la mettre en pratique immédiatement. Mais je pense aussi à des textes comme celui de Mary Morgan. Mary Morgan, je me suis aperçu après coup, après avoir écrit mon bouquin, qu'elle a un chapitre intitulé, comme moi, « Engineering Theory Économique », dans un ouvrage de 2003 qui est par là, si vous m'en demandez tout à l'heure, là, un ouvrage collectif dans lequel elle a écrit un chapitre et dont un sous-chapitre porte ce titre. Donc cette ingénierie économique, je pense qu'elle est une composante forte du régime des sciences au XXe siècle. Régime des sciences dont je vais parler maintenant, c'est-à-dire que, tel que domaine, par exemple Dominique Pestre l'a écrit pour la première période, avant même la financiarisation dans les années 80, les technosciences deviennent un enjeu pour l'État, et l'État devient un entrepreneur scientifique. Donc la compréhension du système des économies nationales profite de l'essor des mathématiques appliquées, de l'optimisation, de la planification, de la simulation, de la gestion automatisée grâce à l'ordinateur, etc., etc. Donc ce que je voudrais développer maintenant, c'est cette idée de régime, si vous voulez, de régime, oui, d'accord, et pour ceci, je reviens un petit peu en arrière dans mon propre papier, pour ceux qui l'ont lu, c'est pas très grave. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire? Eh bien, c'est parler un petit peu.
Oui, si je reviens à l'idée d'ingénierie économique, je pourrais dire, bon, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Les économistes en ont parlé, je l'ai déjà dit. Et l'histoire, et au fond, il y a en économie une réflexion sur ces questions-là. Cependant, je vais essayer de vous démontrer que ce n'est pas vrai. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas satisfaisant. C'est-à-dire que ce qu'ont fait les économies sur cette question ne me satisfait pas entièrement. Alors, en effet, il y a bien des traditions d'études réflexives. Et je regarde Annie à mes côtés. L'histoire de la pensée, l'épistémologie, c'est autant que je sache des réflexions sur la théorie économique et sa traduction éventuellement en une ingénierie. Mais est-ce qu'on peut se satisfaire de ces recherches? Alors, moi, je pense que pas tout à fait. C'est pour ça que, si vous voulez, ce que je voudrais vous proposer ici, c'est d'accepter que on puisse avoir une sorte de connection entre la tradition de l'histoire de la pensée économique, qui est illustrée par cette université et ce séminaire, et une autre tradition qui est celle des science studies, parce que je me trouve un pied de chaque côté, personnellement, et je pense qu'il est extrêmement dommageable qu'il n'y ait pas assez de circulation entre ces deux domaines. Voilà un petit peu ce que je veux développer maintenant rapidement. Alors, en effet, pourquoi ça ne me convient pas tout à fait? Eh bien, j'ai plusieurs arguments. C'est d'abord, il y a... c'est un peu gonflé de dire... il faut quand même... Alors, je reviendrai, excusez-moi. Pour faire de l'histoire des sciences, quand j'ai commencé à en faire, j'ai appris que il y avait deux solutions, où on était historien ou on était scientifique. Grosso modo, c'est souvent ce qui se passe. Donc on pourrait dire que pour faire l'histoire de l'économétrie, soit on est historien, soit on est économiste, soit encore mieux, on est historien de l'économie, bien sûr, mais ça peut être l'un des deux. Or, dire que seuls les économistes pourraient faire l'histoire de la pensée économique et de la théorie économique et de l'ingénierie économique, ça je ne crois pas qu'on puisse le dire de la même façon que je ne crois pas qu'on puisse dire que seuls les mathématiciens puissent faire l'histoire des mathématiques. C'est ce qu'on a pensé depuis pendant longtemps, et c'est, je crois, ce qu'on ne pense plus. Si on regarde un petit peu ce qui s'écrit. C'est pas que je chahute, c'est ça, merci. En effet, donc il y aurait une certaine inconscience à prétendre réaliser des études critiques d'une science sans en connaître les méthodes et les concepts, mais il y a symétriquement un risque au moins aussi important à penser que cette position réflexive puisse être tenue uniquement de l'intérieur de cette discipline. En effet, comme nous l'avons vu avec l'épisode de la critique autiste en 2000, ces approches réflexives sont sous-dimensionnées
voire souvent absentes, des formations traditionnelles à l'économie. L'épistémologie, l'histoire de la pensée, et plus encore l'histoire des faits, ont quasiment disparu des formations de licence et de maîtrise. J'ai été responsable, doyen, comme on disait, d'une filière d'économie, et j'ai vécu ça, donc je pense que c'est exact. Et la réforme LMD n'a pas encore favorisé énormément ces choses-là. Donc, nous avons des arguments de fait pour penser que l'économie réelle est devenue opaque et incompréhensible à l'aide des outils de la discipline académique et pour affirmer que les économistes académiques ont trop souvent surestimé la théorie, les principes et les modes de raisonnement qui forment selon eux le cœur de leur discipline, ce qui les a conduits à sous-estimer par conséquent les activités de transformation du monde réel, c'est ce que j'ai écrit, que leur innovation a suscité, planifié ou organisé. Nous avons également des raisons politiques de ne pas nous suffire des analyses du système réel produites par les économistes eux-mêmes, qui sont pour beaucoup d'entre eux juges et partis, à savoir de l'adéquation et de l'efficacité des politiques mises en œuvre. La critique économique que nous vivons aujourd'hui à la suite du krach financier des subprimes a produit une crise de confiance dans le système financier, et tout particulièrement vis-à-vis des banques, etc., mais elle a produit aussi une certaine méfiance vis-à-vis des économistes eux-mêmes, qui ont accompagné la vague des innovations financières avec un discours immodéré, discours ultralibéral, parfois messianique. Et donc, il faut reconstruire, à mon avis, non seulement le marché financier, mais une image plus réaliste du rôle des acteurs économiques dans le monde que nous habitons. Et je crois que la crise des sciences est aussi une crise de l'expertise, dont les solutions sont en partie connues. Il faut démocratiser l'expertise, diffuser à tous un maximum d'éléments de compréhension des enjeux et des solutions. Je vais en rester là. Je voudrais, juste pour faire une petite pause dans mon discours qui est, paraît-il, un peu rapide, vous dire qu'avant-hier ou avant-avant-hier, dans le discours de Sarkozy, j'ai repéré quelque chose qui m'a mis en colère d'une façon épouvantable. C'est-à-dire quand, il y en avait beaucoup, mais disons une, simplement une. Quand il s'intéresse à la fiscalité, qui nous dit qu'il va réformer la fiscalité sur le patrimoine, okay, de quoi parle-t-il ? De la concurrence entre la France et l'Allemagne. Du fait que les cerveaux s'en vont en Allemagne. Et il va nous persuader, c'est parti comme ça, que la réforme va avoir cet objectif-là. Donc là, on a un effet direct, vous voyez, d'une pensée, qui est la pensée libérale, c'est-à-dire que la fiscalité n'est pas un machin qui sert à la redistribution. Moi, j'avais appris ça quand j'étais petit, mais ça ne doit plus être vrai. La fiscalité, ce n'est pas de la redistribution, c'est pour améliorer... en plus, une concurrence avec l'Allemagne qui, franchement, les millions qui partent en Allemagne, bon, je suis pas sûr. Bon. Voilà, donc, mon projet, c'est bien. Alors, j'ai fait une critique de ce que je voudrais faire de l'intérieur de l'économie. Je pense néanmoins, je vais vous proposer autre chose, c'est de partir de l'intérieur, évidemment, des science studies, des études sur les sciences. Mais je ne suis pas pour le noir et blanc complet, c'est-à-dire un des problèmes des science studies. Eh bien, c'est qu'à l'inverse, elles ont privilégié les sciences physiques et naturelles. Et moi, dans toutes mes études STS, histoire des sciences, sociaux des sciences que j'ai faites, pas une fois j'ai entendu un prof qui prenait l'économie comme exemple de science. Donc c'est quand même problématique, c'est-à-dire que l'histoire des sciences telle qu'elle s'est développée, dans sa forme ancienne, prenez un livre d'histoire des sciences, il vous parle de physique, il vous parle de biologie, il ne parle jamais d'économie ni de sociologie. Bon. Et de la même façon, dans la vision moderne, c'est plus moderne, c'est-à-dire qu'on appelle STS, sciences techniques et société, il y a très très peu de choses sur l'économie, y compris dans l'entourage des gens comme Latour, etc. Il y avait très peu d'économie. Alors, je pense qu'on est en faute d'avoir développé une histoire des sciences et une sociologie des sciences qui ne s'intéresse qu'à la physique. Et d'autant plus qu'elle s'intéresse à une physique qui est complètement démodée, qui n'est même pas la physique qu'on fait aujourd'hui. Donc là, je suis aussi critique par rapport à l'autre bord. Bien, alors, maintenant que j'ai fait mes petits balanciers entre les deux, qu'est-ce que je pense que peut apporter à mon problème, et ça va être un des derniers apports que je vais faire sur cette introduction, les science studies. Alors, eh bien, la première chose, c'est que je pense que c'est un problème de méthode. C'est-à-dire que je ne pense pas. Je pense qu'il y a une méthode pour étudier l'histoire, les sciences. Et que cette méthode pour étudier les sciences, on l'a développée dans l'histoire des sciences, dans la philo des sciences, dans la socio des sciences, beaucoup plus qu'en économie elle-même. Il y a beaucoup d'économistes qui ne sont pas formés à l'histoire. Hein. Je suis désolé de le dire, pas dans cette salle, parce que tous mes copains le sont, mais tous les gens qui sont là le sont, les étudiants aussi. Mais dans l'ensemble de la communauté des économistes,
Il n'y a pas de méthode historique, franchement, très solide.
Donc, premier point, c'est une question de méthode. En particulier, je vais développer quelques points de méthode qui, moi, me semblent essentiels. L'agnosticisme salutaire vis-à-vis de toute proposition qu'on dit vraie ou pas vraie. La sociologie des sciences, l'histoire des sciences, ne se prononce pas sur la vérité d'une proposition. Ce n'est pas leur rôle. D'accord ? Et ça, c'est quand même assez pratique, puisque leur rôle, c'est de reconstituer, en histoire sociale des sciences, par exemple, ou en sociologie historique, c'est de reconstituer comment les acteurs ont construit les choses qui nous occupent aujourd'hui. Alors, évidemment, on a parlé de relativisme à propos de ça, on en discutera, je reporterai la discussion, les débats polémiques sur ces questions-là, parce qu'il y en a eu hein, beaucoup, mais je ne pense pas que continuer à dire qu'on est agnostique, ça ne veut pas dire qu'on est relativiste et que toutes les vérités se valent. Pas du tout, enfin, je pense qu'on peut en faire la démonstration. Deuxièmement, quel est l'intérêt encore des science studies ? Et j'essaie de, vous voyez, de pénétrer le milieu des économistes avec ces idées-là. Eh bien, les cadrages importants et les révisions qu'elle a opérées sur les études de la révolution scientifique à l'époque des Lumières. Ça me semble quand même intéressant que les économistes, par exemple les étudiants, apprennent des choses sur l'histoire des sciences et pas seulement sur l'histoire de la science économique. Bon. C'est un cadrage qui me semble tout à fait important. Qu'est-ce que j'avais encore comme... Bon, alors... Il y en avait plein d'autres. Par exemple, le fait que ça s'appelle sciences techniques et sociétés. Donc, c'est dans cette articulation de sciences techniques et sociétés qu'on trouve le plus riche, à mon avis, des science studies. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas seulement la question des sciences, comme le font les philosophes des sciences, par exemple, mais on se pose les questions de l'articulation des technosciences. Ah, ben c'est tout de suite plus intéressant que les sciences pour moi, parce que les technosciences intègrent effectivement l'ingénierie, alors que les sciences tout court ne l'intègrent pas. Donc on s'intéresse aux technosciences, et pour ces technosciences, on s'intéresse donc à leur rapport, leur lien avec la société. Alors ça, je trouve ça intéressant. Et en particulier, on développe l'idée de régime de savoir. C'est-à-dire que la connaissance n'est pas... Alors bon, c'est un peu cunien ce que je raconte. Oui, c'est cunien, c'est vrai. La connaissance ne s'accumule pas régulièrement au fil des temps. Il y a des paradigmes. Ces paradigmes ont une existence historique. Ils ont une existence épistémologique aussi, évidemment. Et ils ont une existence sociale, c'est-à-dire ils sont faits d'individus qui pensent d'une certaine façon. Et ces régimes de savoir, eh bien, nous les étudions en histoire des sciences, et par exemple, le petit bouquin de Pestre sur argent, pouvoir, et je ne sais plus quoi, j'ai oublié le troisième terme, et politique, par exemple ce petit livre-là, mais il y en a plein d'autres, c'est exactement ça, c'est de mettre en place ce qu'on peut appeler une notion de régime de savoir caractérisant le XXe siècle. Qu'est-ce qui caractérise le XXe siècle ? Est-ce qu'on sait des choses au XXe siècle de la même façon qu'on les savait au XIXe ou au XVIIIe ? Voilà. Alors... Je n'ai pas beaucoup de temps parce que d'aller beaucoup plus loin là-dessus, je voudrais terminer la présentation de mon introduction par un dernier thème, qui est celui de la performativité. Ben oui, oui. C'est-à-dire, si on s'intéresse à... Où est-ce que j'ai mis ça ? Bon, ça fait rien, je vais vous le raconter comme ça. Si c'est là, voilà. Si on s'intéresse à la... Pourquoi je m'intéresse à la performativité ? Parce que je m'intéresse à l'ingénierie, c'est-à-dire... la manière dont la science se transforme par ingénierie. Alors, comment elle se transforme ? Je l'ai dit tout à l'heure, hein, elle se transforme, d'une part, par l'intervention de l'ingénieur, par exemple, dans le design de dispositifs, OK ? Donc, dans la vision, la construction de dispositifs qui visent à modifier, ben quoi ? Par exemple, le marché de l'emploi, ou le marché des TIC, ou que sais-je encore. Bon, modifier un marché, modifier aussi une action de certains acteurs, l'État ou d'autres acteurs, les entreprises par exemple. Donc, là, j'ai un petit problème avec la performativité. Alors, je vous rappelle ce que c'est introduit par Calon dans ses ouvrages de 1998 et de 2007. Il généralise les propriétés pragmatiques des objets formels. Il fait dériver ce concept des théories linguistiques de Austin, Peirce, Morris. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse énormément. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il englobe dans ce terme-là tous les cas dans lesquels des énoncés, des modèles et des théories n'ont pas principalement une portée descriptive, mais sont activement engagés dans la construction de la réalité qu'elles décrivent. Bon, une petite définition, je ne sais plus si ça vient de lui ou de moi, mais d'une synthèse de ma part. En fait, c'est ça. C'est l'idée donc, que les énoncés donc, agissent sur la réalité qu'ils décrivent. Alors, ils peuvent le faire de plusieurs façons. Ils peuvent le faire tout simplement par la chaîne classique qu'on connaît depuis longtemps, science pure, science appliquée, technologie, technique,
et application, vous voyez, hein. Donc, ça peut être tout simplement ça, c'est-à-dire qu'on développe des techniques, des moyens techniques qui sont cette suite-là. Mais on verra que cette vision linéaire est assez fortement remise en cause de temps en temps, et en particulier dans la période actuelle, parce que la demande politique est tellement forte qu'elle précède largement ce schéma théorie appliquée, technique et application. Vous voyez ? Donc, ce schéma linéaire, je le présente, mais je dis en même temps qu'il est fort perturbé par un autre schéma qui est qu'il y a une demande politique forte sur certains domaines, en particulier dans les périodes actuelles à cause de toute la réflexion qu'on est amené à avoir sur le risque, compte tenu de tous les problèmes de société qu'on a avec cette histoire de risque. Eh bien, on a par conséquent là beaucoup, alors que ce soit du risque financier, du risque de construction de barrages, du risque climatique, de tous ces risques, du risque sanitaire, eh bien, nous avons un schéma un peu différent que le schéma linéaire. Alors, néanmoins, quatre exemples rapides pour pointer ce que Calon appelle performativité, pourquoi ça m'intéresse. Premier exemple, l'exemple de Black-Scholes et Merton, et ça, c'est hyper classique, la formule qui a permis, donc, de construire des portefeuilles permettant de gérer le pricing des options, des portefeuilles de couverture. Et cette formule, donc, elle a agi immédiatement, évidemment, dans les salles de marché, enfin, relativement rapidement, on va dire, par rapport à la lenteur habituelle de la macroéconomie, qui, quand elle modifie quelque chose, c'est à l'échelle de quelques années ou dizaines d'années. Là, ça va beaucoup plus vite en finance, c'est la seule différence. Enfin, pas la seule, mais une des principales. Deuxième exemple. On pourrait prendre l'exemple du pilotage par les indicateurs. Et on a fait un texte avec Alain Desrosières là-dessus, il y a un séminaire qui s'est ouvert. Le pilotage de beaucoup de choses aujourd'hui par les indicateurs est systématique pour moi, du fait que construire des objets statistiques n'a pas simplement pour but de décrire une certaine nature, une certaine chose, mais au contraire de la piloter. C'est-à-dire les politiques actuellement n'ont plus de politique au sens où on le disait habituellement dans les années 50. Ils ont une politique qui se construit par les best practices, par le benchmarking, à l'aide de ces indicateurs. C'est un autre exemple, on l'a développé plusieurs fois. Un autre exemple et un dernier, la controverse autour du soi-disant marché du travail. Je dis soi-disant parce que c'est extrêmement controversé, qui est un marché du travail dans lequel il y a une offre, une demande, et il suffit d'appliquer la théorie classique pour s'en sortir. Bon, je pense à la controverse qu'il y a eu autour des textes de Larocque et Salanier dans les années 2000, et en particulier du chiffrage par eux, du non-emploi volontaire à 37%, ce qui a fait quand même bondir au plafond et monter au rideau pas mal de nos collègues. Voilà. Alors, il y a peut-être un problème avec cette notion-là, et puis après je passerai à autre chose. C'est qu'on pourrait dire comment s'articule votre critique de l'économie comme autistique, je ne sais pas ce qu'il faut dire, et la performativité. Parce qu'au fond, la critique des étudiants en 2000, c'était de dire la théorie économique ne parle pas de l'économie réelle. L'économie, telle qu'elle se passe, voilà, c'est avec tous ses agents et tout. Bon. Et puis ce que dit la performativité, c'est vraiment à l'opposé, l'inverse. Ce qu'on pourrait dire, c'est... Mais non, tout ce que font les économistes, immédiatement, toujours, ça a un effet, ça transforme le monde, ça change le monde, en fonction de la théorie elle-même et pas seulement d'autres choses. Alors ça peut paraître comme absolument contradictoire, ça ne l'est pas si on pense que ce qui est derrière l'idée de performativité, c'est quand même une idée de sociologie critique, à mon avis, c'est là qui est la plus intéressante. En tout cas, l'idée de sociologie critique qui est la suivante, c'est que on a réussi, dans beaucoup de cas en économie, à convaincre, à transformer le réel de telle manière qu'il corresponde à la théorie. Voilà, on peut dire vite, ok. Et ça, c'est une chose qu'on connaît dans d'autres sciences. Bruno Latour a fait sa carrière à partir du livre sur Pasteur et Pouchet, et qu'est-ce qu'il nous disait dans ce livre ? Il commençait par quoi ? Je crois qu'il commençait par là, il me semble me souvenir. C'est-à-dire quand il y a eu la vaccination contre la rage et la victoire de Pasteur sur Pouchet, tout le monde connaît Pasteur, Pouchet, personne ne connaît, peu importe, c'était l'autre qui était en face, qui n'était pas d'accord, et qui était pour la génération spontanée. Donc la controverse entre Pasteur et Pouchet, comment elle a été gagnée par Pasteur ? Essentiellement par cet épisode de la vaccination des moutons, c'est des moutons, oui, contre je ne sais plus quoi, c'est pas la rage, c'était donc autre chose. Si, voilà que j'ai un trou. Bon, on les a vaccinés. Mais qu'est-ce que montre Latour ?
Non, non, c'est là, c'est pas. J'ai eu un. On les vaccine contre autre chose, contre la. Bon, enfin, peu importe. Peu importe. Pour vacciner les moutons dans la ferme de quelque part en Bourgogne, j'ai oublié. J'ai lu ça il y a 20 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On transforme la ferme en laboratoire pour faire vite. Voilà. Si vous voulez. Et c'est pour ça que ça marche. Et c'est montré de manière remarquable. C'est-à-dire que ça n'aurait jamais marché si Pasteur avait déboulé avec sa petite seringue dans la ferme telle qu'elle était. Il faut la transformer en laboratoire, c'est-à-dire la rendre propre, virer tout le purin, nettoyer les vaches, les moutons, faire beaucoup de choses qui font que c'est plus une ferme à la fin, c'est un laboratoire. Okay, et à ce moment-là, ça marche. Donc, on a un peu, à l'image de ce que je raconte là sur Bruno Latour, la même chose en économie assez souvent. C'est-à-dire, en particulier, l'économie dominante, bah, évidemment, elle réussit, ce que ne réussissent pas les autres pour le moment, je crois, pas beaucoup, elle réussit à faire en sorte que le marché du travail devient un marché du travail, oui, alors qu'il n'était pas forcément un marché du travail. C'est-à-dire que toutes les conditions, les conventions, etc., soient éliminées et qu'on considère que ce marché du travail fonctionne comme n'importe quel autre marché. Je vais vite, je travaille à la SERP parce que j'ai pas beaucoup de temps. Voilà donc ce qui semble, qui réconcilie les deux points de vue dont je parlais tout à l'heure, de l'autisme. Oui, l'économie parle du monde, transforme le monde réel, mais dans son cours, elle parle d'une économie qui n'est pas celle qu'elle a transformée. Vous voyez, c'est pas contradictoire du tout. Et l'autisme, c'est les cours que nous recevons, les cours que nous donnons à nos étudiants, ne parlent pas tellement de ce qui se passe, ne parlent pas du vrai marché du travail, d'accord? Ils font trois courbes sur le marché du travail avec offre-demande, et donc, ils se débrouillent pour qu'en fait, dans la réalité, ça soit un peu comme ça, et ils y arrivent pas trop mal, finalement. Voilà, c'est ça l'image que je voulais donner. Je vais m'arrêter sur cette introduction, et je voudrais maintenant vous montrer quelques images. J'ai plus que 25 minutes, je crois, on a commencé un peu plus tard. Hein, donc, je vais vous montrer quelques images qui correspondent. J'ai sélectionné deux chapitres du bouquin. Pour vous donner une idée, vous avez la table des matières. Pour ceux qui ne l'auraient pas, je rappelle que j'ai traité dans ce bouquin de choses assez diverses et que vous pouvez lire ça de manière totalement décousue, hypertextuelle, enfin comme vous voulez, hein, mais pas, vous n'êtes pas obligé de lire ça de manière linéaire. Il y a un chapitre sur la crise des méthodes et des régimes économiques et sur ce que j'ai appelé l'historiographie éclatée. Il y a un chapitre sur l'indice des prix, il y a un chapitre sur la corrélation, il y a un chapitre sur Lucien Marche, qu'on devrait dire Marc, il y a un chapitre sur Maurice Fréchet, statisticien, il y a un chapitre sur les indicateurs, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a un chapitre sur la Pax Americana, les sciences économiques reconfigurées par la Pax Americana, il y a un chapitre sur l'analyse d'activité et la théorie de l'équilibre général, un chapitre sur François Divisia, et enfin un chapitre sur scénarios et modèles du changement climatique. Bon, je vais évidemment pas, vous comprenez, en 20 minutes, vous parler de tout ça. Je vais essayer de vous parler rapidement avec ce diaporama de deux textes, le texte sur la corrélation et le texte sur Pax Americana. Bon, qui en plus sont pas hétérogènes totalement, mais j'ai quand même fait attention dans ce bouquin à faire deux parties, une partie sur la stat économique, vous voyez, et une autre partie sur l'économétrie. Hein, c'est-à-dire qu'il y a, dans la première partie, c'est les objets statistiques comme la corrélation, l'indice des prix, etc., les petits objets simples voilà, de statistiques. Dans la deuxième partie, il s'agit de modélisation économétrique, alors que dans la première, il s'agirait plutôt de quantification, pour reprendre la séparation qu'Alain Desrosières fait à juste raison entre les deux choses. Alors voilà, je vais vous parler des deux rectangles verts sur ce schéma, et j'ai plus le temps trop de lire des textes, donc je vais vous montrer. Est-ce que ça marche? Bon, d'accord. Alors voilà, donc je vais vous parler des deux cases vertes, d'accord, c'est-à-dire la stat économique. Ce tableau, c'est un peu, quand j'ai pas le temps de te raconter l'histoire de la statistique depuis le Moyen-Âge jusqu'à maintenant, ça résume un petit peu quelques éléments de. Alors les trois colonnes, c'est la statistique descriptive, l'arithmétique politique et le calcul des probas. Tiens, il n'y a pas d'économie, oui. Bon, ben parce que ça dépend de l'enseignement qu'on fait, on pourrait tout à fait mettre les deux cases qui sont là dans un environnement plus économique. Et donc, je vais parler de ces deux cases, la statistique économique, et en particulier autour de la corrélation, et d'économétrie et de recherche opérationnelle. Alors, vous savez, excusez-moi, je vais aller vite, mais en 20 minutes, ça va être illustré, hein, c'est pas, on pourra discuter. Donc, vous savez que la corrélation est née ailleurs que chez vous, ailleurs qu'en économie. Bon. Elle est née donc en biométrie, chez Galton et Pearson, en Angleterre, sur un tout autre sujet.
Donc Galton s'intéresse à la régression parce qu'il est le cousin de Darwin et que je trouve les mots les plus simples. Il est le cousin de Darwin et qu'il a été fasciné par la lecture de Darwin et il a fait tout son programme, qui est un programme politique et scientifique, sur cette question. Recherchons les lois de l'hérédité qui sont au centre de ce travail. Donc là, c'est les poids de senteur. Bon, il va distribuer des poids, des gros, des petits, des moyens à des gens, les planter, recueillir les filles mères. Il garde la taille des graines filles en fonction de la taille des graines mères, et il obtient les points qui sont sur le schéma. Il travaille avec des médianes et pas des moyennes, il travaille avec des classes, hein, d'accord. Donc on n'est pas dans un nuage de points, c'est des médianes de tranches. Et il obtient l'idée, qui est, vous voyez, très approximative, qu'on a ici une relation linéaire. Plus que les mères avaient été grosses, plus que les filles vont être grosses. Tout simplement. Alors, il recommence avec les parents, en chair et en os, et là il a un problème, c'est que pour faire un enfant, il faut être deux, un papa et une maman. Ça fait 3, donc bon, il s'arrange en prenant la taille moyenne du père et de la mère, et il obtient ce tableau de données qui est assez connu. C'est la taille des parents et la taille des enfants, c'est en inch, c'est par classe. Vous devez voir de loin uniquement une seule chose, ne pas voir qu'il y a une erreur dans la troisième case de la 15e ligne, mais ça a une allure un peu bizarre, ce tableau d'ellipse, d'accord? Vous voyez? Voilà. Ensuite, vous devez voir que si on a juste une droite sur ce tableau, on peut y arriver, ben voilà, on trouve ça, ce qu'il a trouvé. C'est-à-dire, une fois de plus, et c'est là qu'il a baptisé cet outil, la régression, d'accord? Régression toward mediocrity. Pourquoi? Parce que, oui, les grands font des grands, les grands parents font des grands enfants, mais pas aussi grands qu'eux. Oui, les petits font des petits, mais pas aussi petits qu'eux. Il y a un retour vers la moyenne, et vous savez que le mot médiocre, au Moyen-Âge, n'était pas, voulait dire moyen, tout simplement, il a pris ensuite un sens un peu péjoratif. Mais c'est simplement ça. Alors, voilà, donc, et puis ici, on retrouve l'ellipse dont je parlais tout à l'heure, et on retrouve la théorie mathématique complète d'une loi normale à deux dimensions que je ne vais pas vous imposer, juste ce dessin, pour que vous compreniez que l'ellipse, c'est ça, on a scalpé une cloche. Voilà. Et maintenant, donc, Karl Pearson va reprendre ceci en lui donnant un autre sens. Je vais étudier là en un quart d'heure, je vais juste étudier donc la manière dont cet objet bouge. Il le transforme, il va lui donner une formule, ce qu'elle n'avait pas avec Galton, c'est la formule de Pearson, de la corrélation, covariance de xy sur écart type de x, écart type de y, voilà, formule assez simple, qui est facile à calculer, voilà, et il va surtout lui donner une signification, et cette signification, c'est donnée par sa philosophie, d'où l'importance de ne pas séparer la philosophie, l'histoire et la technique. Sa philosophie, c'est laquelle? Eh bien, c'est celle de la grammaire de la science qui est montrée à gauche, et c'est celle qui nous dit qu'il n'y a partout dans le monde rien d'autre, il n'y a pas de loi. Il n'y a que de la contingence. C'est le mot-clé de son bouquin, je suis pressé, donc je vous résume tout le bouquin en deux mots, contingence. La contingence, c'est que ce qui existe d'abord, eh bien, c'est la variabilité, et que cette variabilité, on peut en rendre compte par des résumés de nos perceptions. Ce qui compte, c'est les phénomènes, il n'y a pas de loi derrière. Les lois sont seulement des lois empiriques, qui sont des résumés de nos perceptions. Et donc, partant d'une observation, on va trouver des nuages de points et on va ajuster des droites, oui, bien sûr. Mais c'est exactement le processus inverse de la droite des moindres carrés de Gauss. J'ai mis le temps à comprendre parce que les économistes ont attrapé les deux sans voir toujours la différence. Chez Gauss, il y a d'abord la droite et ensuite des points autour à cause des erreurs. Tandis que chez Pearson, il y a d'abord le nuage de points et ensuite la droite qui résume au mieux le nuage de points. Bien, alors ça va venir chez les économistes comment? Eh bien, par Yule. Par Yule, qui, comme vous le savez, a été l'élève de Pearson, mais n'était pas intéressé par les questions d'hérédité, mais par les questions sociales et économiques, et qui n'était pas eugéniste en plus. Donc il a fréquenté Pearson, ce qui lui a permis d'avoir les outils, mais il a eu besoin de reformater ses outils. Il ne pouvait pas utiliser la corrélation de Pearson, telle que Pearson l'avait définie, pour 3 raisons philosophiques. Il n'avait pas la même philo. Objectif, il ne cherche pas les mêmes choses, il est en économie, il est sur la pauvreté, il n'est pas du tout sur le même objet. Et même, d'un point de vue mathématique, il est obligé de modifier tout ce qui a été fait avant lui. En particulier, Pearson dit, ce que j'ai fait, c'est nouveau. Lui dit pas du tout, c'est la même chose que lui. C'est-à-dire que la droite les règles de régression et la droite des moindres carrés coïncident dans la majorité des cas. Et donc on peut au lieu de faire des calculs compliqués de Galton-Pearson avec des nuages et tout ça, on peut tout enfin avec des choses assez compliquées, on peut tout simplement se ramener à la droite des moindres carrés. Donc là, c'est exactement ce que Pearson ne voulait pas. Il avait écrit un texte vengeur là-dessus. Je ne fais pas la même chose que les astronomes. Donc, les économistes ne savent peut-être pas qu'ils ont finalement pris, à travers Hume, la forme de régression, non pas de Pearson, mais celle de Gauss, dans laquelle il y a une variable qui dépend d'autres variables, et il y a une erreur sur la première variable Y et pas sur les autres X. Donc, c'est le premier point qui est sur le tableau ici. Le deuxième point, c'est qu'on n'a pas besoin de la loi normale, puisque dès lors qu'on ne passe plus par la régression au sens lieu des moyennes conditionnelles, eh bien, on peut tout simplement faire une droite des moindres carrés qui n'a pas besoin d'une hypothèse de normalité. Alors évidemment, c'est relatif, ça marche toujours, la droite des moindres carrés, on peut toujours la faire. Elle n'a pas forcément un sens, surtout si la régression n'est pas linéaire. Hein, voilà. Et ça, c'est un peu la faiblesse de Yule, hein, c'est évidemment, de dire on va faire comme ça. Bon. Il démontre donc en 97 que les droites de régression, bon, c'est ce que je viens de dire. Voilà. Cette nouvelle approche va être prise par qui ? Edgeworth et Bowley qui vont vraiment prendre. En 1909, je considère qu'à cette date, c'est le moment où la corrélation traverse la Manche. La corrélation et la régression traversent la Manche pour venir en France. Remarquez bien que depuis Galton, 1885, il a fallu quand même donc de l'ordre de 25 ans pour traverser 13 km de Manche. Mais c'est pourquoi je dis ça ? Parce que ça a permis. Il se trouvait qu'il y a eu une occasion. Cette occasion, c'est l'IIS, l'Institut international de statistique, qui se réunissait à Paris en même temps que la Société de statistique de Paris et en même temps que les économistes, je crois, de la REP, qui sont venus aussi à ces réunions. Et donc, Yule a présenté aux économistes du monde entier, puisque l'IIS, c'est mondial, mais principalement des Français, puisqu'on était à Paris, il a présenté tout ce qu'on pouvait faire avec l'outil de la régression telle qu'il venait de le faire. Et ça a déclenché des vocations, et c'est à partir de ce moment-là que je trouve des textes très nombreux mobilisant les deux notions de corrélation et de régression en économie. Grâce aux travaux des gens que j'ai écrits ici, c'est-à-dire de Hooker, Marc, etc. Alors, un petit mot de deux choses, mais ça va très vite. Un économiste là, que vous revendiquez tous comme économiste, Henry Ludwell Moore, qui fait un gros travail sur la loi de demande, je ne rentre pas dans le... mais il applique. Il est passé un an chez Pearson, il applique cette méthodologie pour déduire ses courbes de demande. Il a quelques problèmes avec celle-ci, vous vous souvenez, parce que c'est une demande croissante. Je ne reviens pas là-dessus, ça a été discuté très, très longuement. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement ça. C'est bon, on a discuté de ça, on est arrivé à la question de l'identification, dont je résume simplement ce que c'est. Si j'ai des prix, si j'ai des quantités et que je fais une droite des moindres carrés sur mon nuage, eh ben, je ne sais pas ce que j'ai. Je n'ai rien. Je n'ai ni une demande, ni une offre. Quelque chose entre les deux. Par conséquent, ce coefficient de corrélation et cette méthode de la régression ne sert à rien du tout en économie, mais à rien de rien. C'est-à-dire qu'il faudrait... Donc vous voyez, vous prenez un outil, et un certain nombre d'historiens des sciences, et j'accuse ici Isabelle Stengers, disent les outils circulent tout seuls. Ben non, ils ne circulent pas tout seuls, parce que dès que vous les faites circuler d'une discipline à une autre, ça ne marche plus. Il y a des trucs qui ne sont pas interprétables, qui sont insensés au sens propre du mot insensé. Ils n'ont pas de sens. Donc la droite que vous obtenez comme ça, elle n'a pas de sens. Donc, il va falloir retravailler la question. Et deuxièmement, quand on obtient quelque chose par hasard, avec les corrélations et les régressions, il y a deux usages de ce qu'on obtient. Moore a, ça c'est un dessin à moi qui est un peu compliqué, mais en lisant les bouquins de Moore là, depuis 1914 jusqu'en 1927 ou 28, le dernier, je ne sais plus, on peut reconstituer ce qu'il voulait faire. Ce qu'il voulait faire, c'est retrouver toute la chaîne de causalité. À gauche, c'est la production agricole, à droite, la production industrielle, et ici, la production agricole étant remontant aux taches solaires, non à Vénus pour lui, vous vous souvenez, la loi de demande n'est qu'un petit morceau de ce grand schéma. Donc lui, son interprétation de la corrélation, il y en a partout des corrélations là, dans ce schéma, c'est causal, c'est un schéma causal. Ça pose plein de problèmes d'interpréter la corrélation en schéma causal, vous savez. Bon. Et on lui a bien reproché. Mais pour d'autres, si je prends ici les baromètres, je vais vous montrer trois baromètres vite fait, j'ai déjà fait ça pour beaucoup de gens. Ceci est le premier baromètre que j'ai trouvé dans le journal de la Société statistique de Paris et la première graphique en couleur. la liste des choses qui sont à gauche, vous ne pouvez pas la lire, mais c'est des tas d'items qui sont des items d'économie. C'est les clearing house de Paris, c'est la commission française, c'est le commerce extérieur, c'est le tonnage des chemins de fer, c'est des tas de choses comme ça. Et à la fin, c'est carrément, mais c'est à peine lisible, les faillites, les suicides et l'excédent des naissances sur les décès. Autrement dit, il y a des variables économiques et des variables démographiques. Et ce que vous voyez, c'est un magnifique codage. On peut faire des stats sans quantification, vous voyez, simplement avec un colorimètre. C'est donc un codage couleur. Quand c'est rouge, ça va bien. Quand c'est noir, ça ne va pas bien. Et entre les deux, c'est gris. Et qu'est-ce que observe De Fauville, qui a été un grand statisticien? C'est que le rouge s'est aligné. Le noir s'est aligné. À peu près. Donc ça veut dire quoi? Qu'il a mis en évidence le mouvement des business cycles, c'est-à-dire qu'il a le mouvement des affaires en français. Donc il a objectivé le mouvement des affaires. Donc ça, c'est le premier baromètre qui n'a pas l'air de servir à de la prévision pour le moment, mais qui sert au moins à caractériser le fait que à travers toute série économique, ou presque, et même des séries non économiques, démographiques, on peut lire le mouvement des affaires. Alors, ce baromètre, comme vous le savez, a été, je reviendrai en arrière après, il y a eu une folie des baromètres dans les années 1910-1929, hein, et c'est pas par hasard que je commence en 1910, c'est la corrélation qui arrive, et qui va servir d'outil pour faire des baromètres, comme celui de Harvard, et c'est pas par hasard qu'il m'arrête en 29, c'est qu'en 29, il se casse la gueule, le baromètre de Harvard, voilà ce qu'il fait, dans les 5 dernières années, c'est-à-dire qu'il il part en, je cherche un mot qui est correct à dire. Voilà, il explose. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Que l'outil de corrélation ne sert à rien directement pour étudier un marché, et pour étudier le rapport entre des prix et des quantités, donc une loi de demande de l'offre, et ne sert à rien non plus pour étudier des covariations dans le temps. Pourquoi? Parce que dès qu'ils le font, ils sont devant des problèmes gigantesques. Par exemple, si vous prenez les deux petites courbes, je vais juste regarder ça, qui sont à gauche ici, la corrélation, à votre avis, elle est de combien si vous ne regardez pas ce qu'il y a à droite? Là, ça dépend. Si vous prenez la corrélation des trends, elle est négative, puisqu'il y en a un qui monte, l'autre qui descend. Elle est fortement négative. Si vous prenez la corrélation des écarts aux trends, qu'on appelle quelquefois la saisonnalité, etc., c'est l'inverse. Quand ça monte, ça monte. Quand ça... Bon. Donc, très forte corrélation positive. Et quand vous mettez ensemble, qu'est-ce que ça fait? Rien du tout. Autrement dit, la corrélation est nulle sur la série brute. Donc, tant que vous étudiez les séries brutes, vous ne pouvez rien dire. Donc, invention à partir de ce moment-là d'outils pour décomposer, c'est ça que je cherchais, décomposer les séries en tendance, saisonnalité, etc. Tout le boulot qui a été fait dans ces années 1900-1930 là-dessus. Mais malheureusement, et j'en arrive aux critiques, et ça va finir sur le là, et j'aurai peut-être 10 minutes pour aller un peu plus loin, l'appel. Ouais. La méthode de la corrélation, elle va être tellement déstabilisée qu'elle va être hors, mais vraiment hors sujet, 30 ans plus tard, 10 ans plus tard. Je m'explique. Certes, on peut arriver sur des séries chronologiques, pour reprendre le dernier exemple, à mesurer des corrélations si on prend bien le soin de distinguer la tendance des cycles. Mais Yule montre à ce moment-là que les outils même qu'on utilise pour désenclaver les deux sont des outils qui brouillent et qui influence le résultat final. C'est-à-dire, il l'a fait pour donc tout ce qu'on a appelé les filtres, le filtrage d'une série, c'est la décomposition, ça permet de la décomposition. Donc Yule dénonce ça, il dénonce des corrélations abusives sur les données en couple, aussi, pour d'autres types. C'est lui qui met en évidence ce qu'on appelle la corrélation, l'autocorrélation dans les séries, c'est-à-dire corrélation de XT avec XT-1, XT-2, et le fait que cette corrélation interne à la série elle-même va provoquer des corrélations entre les séries, et qu'il faut déjà les nettoyer de cette corrélation interne. C'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à ce que l'outil de corrélation puisse dire quelque chose d'intelligent sur deux séries, quand même quelque chose. En 1935, le mathématicien Fréchet, j'ai raconté ça dans un article qui est dans le bouquin, s'en est pris au coefficient de corrélation de manière extrêmement violente. Il a fait une enquête auprès des statisticiens, il a posé une motion à l'IS, une motion politique, quoi. Il ne faut plus se servir de la corrélation. C'est assez intéressant de voir comment la science peut tenter un besoin de motion. Alors c'est une histoire que je raconte, et dans cette histoire-là, eh bien, il montre que les abus des usages de la corrélation en économie en particulier. Ce n'est pas un économiste, mais il a pointé du droit le fait qu'un des usages majeurs, c'était on prend des baromètres, on prend les séries, on les décale jusqu'à ce que la corrélation soit maxi, puis on dit qu'on a trouvé un baromètre. Oui. C'est-à-dire on les met en face dès qu'on a trouvé que la corrélation était maximale. Donc on maximisait la corrélation pour construire les baromètres. Et bien cette maximisation est idiote, il le montre, puisque l'outil de corrélation, s'il n'est pas associé à une linéarité, le coefficient de corrélation, c'est un coefficient de corrélation linéaire. Et si vous ne pouvez jamais dire que plus la corrélation est forte, plus l'association est forte entre les séries, ça dépend. Voilà, il y a des tas de pièges. Voilà, alors, mon deuxième exemple que je vais monter à toute vitesse était celui de l'économétrie, qui est né justement de cette faillite de la corrélation. Parce que j'ai... alors, on ne va pas tout remonter tout ça, évidemment. On va partir de là, de la naissance de la Société internationale d'économétrie, quand ? Le 29 décembre 1930. Pas tout à fait un hasard. Au 29 décembre, souvent, on fait autre chose, mais on prépare un peu le réveillon. Non, là, les économistes que vous voyez là, donc, je pense que vous les connaissez tous, se réunissent à Cleveland et fondent quoi ? La Société internationale d'économétrie. Dont l'objectif... Alors, les principaux acteurs sont Fisher et Frisch, d'accord, mais ils vont être une bonne bande. Et j'ai pris un extrait, évidemment, ici, du programme de la Société pour qu'on voit de quoi on parle. Eh bien, il s'agit justement de mettre fin à ces errances de la méthode empirique et statistique que je viens de vous décrire, c'est-à-dire de la corrélation et de la régression appliquée en économie qui n'ont pas produit des résultats magnifiques sur au moins les deux exemples que je vous ai pris. Et il demande donc une unification des approches quantitatives, théoriques et empiriques. Il demande de travailler là-dessus. Unifions l'approche des mathématiciens, puisque c'est très différent, Walras, Pareto, etc., et l'approche des statisticiens, ça doit être très clair. Tant qu'on ne se fonde que sur Walras et Pareto, on ne sait pas ce qu'ils racontent, si ça correspond à une économie fictive, ce que pensent beaucoup, ou si ça correspond à une économie réelle. Donc, regardons un petit peu. Et tant qu'on ne fait que des stats, on est quand même dans la situation que je viens de décrire. Bon, les effectifs de la société vont croître et embellir très vite, principalement aux USA, alors que là, vous voyez, que l'Europe était mieux placée dans les débuts, en proportion que, à peine, c'est quand même 15 ans plus tard que sa naissance, les USA vont évidemment s'imposer, les États-Unis vont s'imposer dans cette société. Voilà la revue, voilà M. Coles qui finance, voilà une réunion de la Coles Commission, c'est des images, hein, je vous l'ai dit, avec quand même, j'ai reconnu trois personnes là-dessus, si vous pouviez m'aider, ça passe tout le temps cette photo. Si dans la salle quelqu'un reconnaît quelqu'un, qu'il me le dise à la sortie. Ici vous avez Divisia, ici vous avez Roy, et ici vous avez Coles. Après les autres, j'ai un peu de mal. Il y en a dont je suspecte. Il me semble que Fischer il serait peut-être là, Vabre, etc. Clavier, je ne suis pas sûr. Voilà, et en France le groupe X-Crise. Alors, pour finir, l'économétrie qui se fait à la Coles Commission. Quelle est l'économétrie qui se fait à la Coles Commission? Ça se fait quand? Ça se fait donc à partir des années 30. La Coles Commission est née en 32. Dans les premières années, ce que je montre dans le bouquin en détail, dans l'article donc, qui s'appelle Pax Americana, je montre le rôle extrêmement important des États-Unis, évidemment à ce moment-là, dans les années 50. C'était un article de commande pour un bouquin qu'on a fait ensemble sur les années 50, les sciences dans les années 50. Et je montre que le glissement de l'économie française, de l'économie anglaise, etc., sous domination de l'économie américaine. Bon, c'est ça la Pax Americana, dans les deux domaines, c'est-à-dire les domaines de l'économie, avec un Y, et dans les domaines de l'économie, comme science. Hein. Et dans la Coles Commission, moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'on ne travaille pas beaucoup sur la question de la guerre, l'économie de guerre. Or, ça a été extrêmement important. Et l'économie de crise aussi, donc mon bouquin insiste aussi sur cette histoire-là, c'est-à-dire que la plupart des modélisations qui fonctionnent bien, c'est quand il n'y a pas de problème, hein, comme en finance. C'est-à-dire, mais par contre, dès qu'on est dans des économies de crise et des économies de guerre, ça ne marche plus du tout, la loi de l'offre et de la demande, elles sont carrément... Bon, donc on a des prix enfin, vous connaissez tout ça, c'est une autre économie. Et là, il faut travailler en ingénieur pour faire ça. Et donc, je trouve tout à fait passionnant, et si j'ai encore un peu de temps dans ma vie, j'aimerais bien bosser là-dessus, c'est bosser sur la manière dont les ingénieurs et les économistes ont travaillé de concert avec d'autres dans les années de guerre pour justement voir ce qu'est une économie dirigée. construire une économie dirigée, parce que dire que des prix, si on définit arbitrairement des prix, bien sûr les libéraux vont dire que c'est une catastrophe, mais comment ils ont réussi à le faire quand même? Il y a des questions qui sont tout à fait intéressantes. Bon. Donc la notion, qu'est-ce que c'est que le manifeste d'Avelmo? C'est ce qui va créer l'économétrie structurelle. C'est vraiment un manifeste. On trouve tous les ingrédients vraiment de ce qui va se passer dans les 10 années qui suivent, jusqu'aux années 50. Et ensuite, le paradigme est épuisé. En 53, il est épuisé. Ils vont faire tous autre chose. D'accord? Donc tout se passe entre 33 et 53, ces 20 années-là. Et là, ils ont tourné autour du problème longtemps. Le manifeste d'Avelmo va vraiment être à l'origine du paradigme de ce qu'on appelle l'économétrie structurelle, qui a trois paramètres importants. Premièrement, elle veut rendre compte de ce qu'elle appelle la structure d'une économie. C'est pas rien, cette histoire-là. C'est vraiment un parti pris structuraliste, on va dire, avant l'heure, bien que ça soit presque l'heure, déjà. Et c'est aussi l'idée d'autonomie d'une relation, qui est très difficile en économie à faire comprendre, et on se demande comment on peut y arriver d'ailleurs. L'autonomie, c'est de dire qu'on va écrire dans un modèle des équations qui sont vraiment celles du moteur du système économique qu'on veut décrire, et pas à côté. Et vous savez qu'Avelmo est celui qui a formalisé le plus cette notion d'autonomie, de relation autonome. Pour l'expliquer, je pars toujours du même chose qui est la plus facile. Si vous êtes en voiture et que vous appuyez sur l'accélérateur, ça va plus vite. Donc vous pourriez penser qu'il y a une loi entre la position de l'accélérateur et la vitesse. Vous auriez tort, vous ne seriez pas sur une relation autonome. Parce que cette relation dépend de qui vous avez pris dans la voiture, de vos bagages, de la vitesse du vent et de la côte ou de la descente de la route. Si au contraire vous êtes un ingénieur et que vous allez vous mettez le bloc moteur sur un socle et que vous mesurez la relation entre la puissance, entre la composition du gaz et la quantité de gaz mélangée à l'essence en gouttelette que vous injectez, et la puissance de la sortie sur l'arbre, là vous avez une relation autonome, okay, qui ne dépend que du moteur. Et vous pouvez le mettre partout, elle sera toujours vraie. Cette idée, je n'ai pas trouvé beaucoup, beaucoup de choses en économie dans lesquelles les gens prétendent qu'ils ont trouvé une relation autonome. Ça, je ne sais pas quel est son devenir. Deuxième élément important de l'idée, c'est la notion de modèle. J'avais fait une enquête assez précise dans ma thèse sur quand est-ce qu'apparaît le mot modèle chez les économistes, 31-32, vraiment, j'en suis sûr. Rien avant, jamais. Et par contre, là, une explosion de la terminologie du terme modèle. Que ce soit chez les frères Guillaume, c'est assez amusant, ou bien chez évidemment Divisia, chez toutes les économistes de cette époque, même d'autres pays que la France. Mais la notion elle-même, elle est centrale. C'est-à-dire que là, il faut se rendre compte qu'on n'est plus dans la mathématisation de l'économie, on est dans la modélisation de l'économie. Et ça change beaucoup de choses. Il y a un chapitre dans ce bouquin sur la différence entre une mathématisation d'une discipline et une modélisation de la discipline. La troisième élément, c'est la probabilité. Tous les économistes que j'ai cités et les statisticiens que j'ai cités jusqu'à présent, je crois, étaient anti-probabilistes, à peu près. C'est-à-dire que la probabilité ne sert à rien. Or, Avelmo dit, mes modèles seront probabilistes ou ne seront pas. Donc là, on voit bien qu'il y a une révolution qui s'appelle la révolution probabiliste. Et là, il y a nécessité de discuter abondamment qu'est-ce qu'il y a derrière l'aléa probabiliste qui est dans les modèles de l'économétrie. Je n'en ai pas le temps, mais c'est fait dans l'article dont je parle, ce terme aléatoire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cet assemblage permet de tester une théorie. C'est-à-dire, pour tester une théorie, je teste l'hypothèse probabiliste de mon modèle. C'est pareil. C'est ça qu'établit, c'est un raccourci fabuleux, c'est ça qu'établit Avelmo en 1944. Voilà, alors, je passe là et je regarde les titres et je vais m'arrêter. Donc ça donne lieu à une économétrie structurelle, développée essentiellement par Koopmans. Cette économétrie, on a un épisode qu'on connaît bien, qui est la controverse Weinmann-Koopmans, qui montre que c'est quand même pas évident, les économistes pourquoi ils vont adopter cette méthodologie-là dans les années 50-60, en particulier en macroéconométrie, hein, elle va être quand même massivement adoptée. Alors que je vous ai montré que les trois ingrédients étaient des ingrédients absolument pas admis par les économistes jusqu'à cette date. Donc là, il faut un peu expliquer ça, il faut comprendre pourquoi il y a des controverses fortes. Et expliquer ça, ça ne peut se faire que si on introduit quelque chose qui est extérieur, qui est premièrement les ordinateurs, deuxièmement Keynes, Troisièmement, ben, tout ça, on a besoin de tout ça, parce qu'il n'y aurait pas eu d'économétrie sans ordinateur, sans caisse, sans l'État, le rôle de l'État et de la prospective, de la prévision, plus exactement, du plan, etc. Voilà, je vais dire simplement que ça change, et puis je vais m'arrêter là, que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que, y compris à la Close Commission, le paradigme de l'économétrie structurelle est terminé dans les années 53-54. Ensuite, on va avoir des choses nouvelles, hein, qui sont... Koopmans va devenir directeur d'études en 48, de 48 à 54, excusez-moi, c'est lui qui est directeur d'études, il va terminer jusqu'en 50-53 l'histoire que je vous ai racontée, et il en commence une autre. Et cette autre histoire, c'est l'histoire de la recherche opérationnelle, née pendant la guerre aussi, développée après, et à laquelle Koopmans va ajouter une brique remarquable, c'est la brique de l'analyse d'activité sur laquelle j'ai un peu travaillé, paradis, je me souviens. Voilà, avec Danzig, comme complice et comparse. Mais on va s'arrêter là, si vous voulez bien, parce que j'aurais... Voilà, je m'arrête là et je vous remercie.